Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Heukmans. Aujourd'hui, nous allons retrouver Rick Van Esch, professeur à l'ULB et également à l'École supérieure des arts de la Cambre. Nous avions entamé avec lui une discussion la semaine dernière à propos d'un colloque qui s'organise ce mercredi et jeudi, colloque consacré au street art. C'est la troisième fois qu'un colloque consacré au street art est organisé à l'ULB. Différents aspects ont été creusés et cette fois-ci, eh bien, ce sur quoi il se concentre, c'est le lien entre le street art, le marché et le droit. Parce qu'évidemment, une des questions majeures qui se posent dans le domaine du street art, c'est sa propriété. À qui appartient-il et comment gère-t-on tout ce genre de problème. Voilà, alors la semaine dernière, nous avions abordé avec lui l'histoire du street art, ce qui s'était dit dans les colloques précédents, et nous avions terminé cette discussion en abordant l'entrée du street art au musée. Nous retrouvons donc aujourd'hui Rick Van Esch pour nous parler de la consommation du street art et de tout ce qui l'entoure, le street art en tant que tel, les objets qui servent à le façonner, et puis évidemment la fascination qui est exercée par certains street artistes.
En fait, c'est la distinction entre la personne artiste et l'œuvre, hein. Ce qui pose à beaucoup de niveaux, parfois question, hein. Est-ce que quand on se rend compte que l'artiste est un salaud, est-ce que son œuvre doit être jetée ou pas? Je ferme vite la parenthèse. Mais donc, il y a de ça, en effet. L'auteur, la réputation, on pourrait dire, de l'auteur, est aussi importante, finalement, que la qualité de l'œuvre. En tout cas, elle contribue à l'intérêt qu'on peut porter à son œuvre. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce phénomène, il existe, vous avez raison de le pointer, donc on peut s'y intéresser. Une sociologue de l'art a fait de ça un critère, elle a appelé ça le critère réputationnel. Et quand il y a un scandale, c'est encore mieux, parce que le scandale attire l'attention, donc la réputation grandit, même si elle est sulfureuse, et donc l'attention qu'on porte au travail est plus forte également. Vous avez tout à fait raison. Alors, prenons le cas de Banksy, justement, puisque son identité aurait été révélée, qu'on a donc affaire à quelqu'un qui serait désormais identifié, qui aura un nom, un prénom, une date de naissance et un visage. Et donc, ça va être très intéressant d'observer ce qui va se passer, parce que pour le cas de Banksy, qui est intéressant à plein d'égards, bon, il n'y a pas que lui, mais vous demandez à n'importe qui s'ils connaissent un street artiste, ils vont dire Banksy. Donc, il faut malgré tout s'intéresser à ce phénomène qui est planétaire et qui est ultra exemplatif des situations. Elles sont quasi exacerbées. En tout cas, qu'est-ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a réussi à construire une réputation sur son anonymat. C'est-à-dire que le fait qu'on ne sache pas qui il est, ça a contribué à sa réputation. Et il a certainement joué là-dessus au bout d'un moment. C'est devenu une espèce de marque promotionnelle d'être sous pseudonyme et de réussir à esquiver le fait d'être démasqué. Il a fallu d'ailleurs très longtemps avant qu'on parvienne. Il y a eu d'autres tentatives, ça a défrayé la chronique. Chaque fois, c'était un peu à côté de la cible. Là, il semblerait qu'on ait touché vraiment la bonne cible. Et c'est intéressant maintenant de se dire que finalement, l'œuvre n'a pas changé, mais on connaît l'auteur. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur son travail et sur l'appréciation de son travail, à la fois rétrospectivement et à la fois prospectivement? Donc désormais, quand il va faire une pièce, ce sera plus une pièce de Banksy, ce sera une pièce de Gunningham, pseudonyme David Jones. Donc il avait un moment changé de nom parce que pensant avoir été identifié. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va lui donner la même valeur? Je parle au travail, hein, puisque la marque de fabrique, d'une certaine façon, disparaît. L'anonymat n'est plus un critère associé au nom de cet artiste. Ce sera vraiment intéressant à observer. Voilà, donc, sur ce terrain de marché, il faut exister. Il y a une concurrence, il faut exister visuellement dans l'espace urbain, et ça, ils sont assez forts, les street artistes, pour choisir un bon spot. Mais d'autre part, il faut aussi éventuellement exister dans les médias, exister sur les réseaux sociaux, et certains peuvent développer des stratégies de visibilité assez importantes. C'est une génération qui vit avec son temps, qui existe donc, on le dit, depuis très longtemps, mais qui se renouvelle sans cesse. Donc il y a des jeunes street artistes, puis il y en a qui sont beaucoup plus âgés. Et donc les jeunes street artistes vivent avec leur temps, et donc les réseaux sociaux, justement par rapport au marché, leur a permis aussi de lier un contact direct avec les collectionneurs et les publics. Et c'est forcément un autre genre de collectionneur. Donc une des intuitions du colloque qu'on met sur pied, c'est que le street art bouleverse les codes. Ça, depuis qu'on bavarde, vous vous en rendez compte. Donc il y a plein de situations classiques, on va dire, de l'histoire de l'art qui sont souvent perturbées par la présence de cet art et sa reconnaissance progressive par les institutions. Mais ça vaut pour le marché aussi, parce que au départ, le marché, c'est un artiste a une relation avec un galériste, le galériste a un réseau de collectionneurs, il y a vente avec pourcentage à la clé pour l'intermédiaire, et puis le solde, je dirais, à l'artiste, et il gagne sa vie comme ça. Ou alors, il a des droits d'auteur sur des pièces. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ça? Il y a les foires d'art contemporain, les foires d'art, c'est un peu la même chose, sont les galeries qui se réunissent quelques jours toutes ensemble et qui permettent aux collectionneurs d'y accéder à toutes en une journée. Et puis vous avez les salles de vente, voilà. Et puis vous avez les réseaux sociaux désormais, où là finalement on fait sauter l'intermédiaire et un collectionneur peut via les réseaux sociaux être en contact avec un artiste et faire l'acquisition d'une pièce. Donc ça, c'est déjà une petite révolution. La deuxième révolution par rapport au marché, c'est que ce sont des collectionneurs plus jeunes, qui sont moins fortunés, qui ont pourtant accès à ces collections. Parce que c'est pas un art cher, sauf les grandes stars dont on vient de parler, qui ont défrayé la chronique, mais qui représentent un pourcentage infime du marché. Comme pour l'art contemporain d'ailleurs. Mais disons, dans le marché du street art, vous avez des galeries qui s'intéressent de très près à des jeunes créateurs, de jeunes street artistes, et qui ont des prix défiant toute concurrence par rapport à ce qu'on s'attend de trouver en galerie d'art. Et là, vous avez des collectionneurs d'une nouvelle génération qui font de très belles collections en n'ayant pas forcément des moyens comme les grands collectionneurs dont on parle dans la presse. Ça, c'est déjà un bouleversement aussi. Donc, il y a une belle évolution du marché. Alors, ça pose des questions de droit aussi. Le colloque va parler de marché et de droit. Et ici, il y a une connexion. Parce que dès le moment où vous êtes anonyme, est-ce que vous pouvez faire valoir des droits d'auteur? Je viens de dire, c'est une manière de gagner sa vie, de toucher des droits d'auteur sur une œuvre, quand elle est utilisée. Eh bien, en fait, ça dépend des situations. Ça dépend du droit, et c'est pour ça qu'on a invité des juristes à ce colloque pour nous parler un peu des différentes situations, parce que le code pénal n'est pas le même en France, en Belgique, en Angleterre, pour ne prendre que ces trois exemples, par rapport à ces situations. Alors, en France, on est assez tolérant, assez ouvert, puisque même si vous n'êtes pas identifié, que vous travaillez sous pseudonyme, en fait, vous gardez votre capacité de propriété intellectuelle. C'est-à-dire, si vous vous manifestez et que vous arrivez à prouver que vous êtes l'auteur de l'œuvre, même si elle n'est pas signée, qu'elle est anonyme, que vous l'avez faite sous pseudonyme, vous avez des droits dessus. En Angleterre, vous seriez débouté. C'est pas la même chose. Dès le moment où vous êtes anonyme, vous risquez de ne pas pouvoir bénéficier de la propriété intellectuelle, puisqu'on ne sait pas que c'est vous au départ et que vous avez du mal à prouver que c'est vous qui l'avez réalisé, sauf à vous dévoiler. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un art qui est illégal. En tout cas, pour une grande partie, c'est toujours cet art qui ne répond pas à une commande publique et qui donc intervient spontanément. C'est illégal. Normalement, la loi dit on ne peut pas écrire sur les murs, on ne peut pas peindre sur les façades des propriétés publiques ou privées. Ça ne se fait pas. Ça peut tomber sous le coup de la loi pour dégradation de biens, etc. Eh bien, le droit français, même si vous peignez sur le mur de quelqu'un sans lui avoir demandé, donc vous êtes doublement en tort, vous n'avez pas son autorisation et c'est pas à vous le mur, eh bien vous restez propriétaire de l'œuvre en tant qu'artiste, si vous êtes reconnu comme étant effectivement le propriétaire des droits intellectuels. Ça veut dire que on peut pas utiliser cette œuvre sans vous payer des droits. Ce serait de la contrefaçon, ce serait du plagiat, d'en faire des produits dérivés, de faire du commerce avec, ou même de la photographier et de la publier, normalement. Donc, le droit français est très fort pour les street artistes à ce moment-là. Après, le seul qui a le droit de faire quelque chose, c'est le propriétaire. Il reste le propriétaire de son bien, donc il pourrait décider, lui, d'effacer l'œuvre. Mais il ne pourrait pas la vendre, par exemple. Même si c'est sur son bien, l'œuvre ne lui appartient pas. C'est assez étonnant comme situation.
Et que se passe-t-il le jour où le propriétaire veut vendre sa maison sur laquelle il y a une œuvre ?
Ah, c'est une excellente question. Il faudra la poser à nos juristes dès le début du colloque. Effectivement, la maison a-t-elle une plus-value? Et certainement, hein, en fonction de la réputation de l'artiste qui a peint dessus. Alors, peut-être qu'il y aurait un droit d'auteur à percevoir sur la plus-value. Je m'aventure, vous savez, je suis pas juriste. C'est pour ça que je me suis associé avec un collègue ici à l'université juriste, Alexandre Pintiot, et une collègue économiste spécialisée dans l'art, qui est Anne-Sophie Radermecker. Et tous deux vont évidemment appuyer cet autre volet. Moi, je suis plutôt historien du street art, on va dire, mais je me documente beaucoup, donc j'ai quelques petites choses à dire. Et votre question, je la trouve assez pertinente et intéressante, d'ailleurs. Tout à fait intéressante. Alors, Banksy a eu un problème parce que lui, il a considéré qu'effectivement, on était en train de faire de l'argent sur son dos avec son travail et il n'était pas d'accord avec ça. Alors lui, au départ, sur son site internet, il proposait un peu à la blague, comme toujours, un shop, c'est-à-dire un endroit où on pouvait acheter des choses. Et en réalité, en termes de shop, c'était pas ça, c'est qu'il vous donnait des images que vous pouviez télécharger pour faire des produits dérivés. Sur un t-shirt, sur une tasse à café ou que sais-je. Et il disait, du moment que vous faites un usage désintéressé, engagé, ludique ou pédagogique, moi ça me va, je vais vous laisser tranquille. Par contre, si vous allez en faire un usage commercial, je vais vous attaquer. Et si je gagne le procès, l'argent que je vais gagner en droit d'auteur, je vais les reverser à une bonne œuvre. Je veux pas gagner de l'argent avec ça, mais je ne veux pas que d'autres gagnent de l'argent avec mon travail. Ça, c'était la règle. Il avait écrit une phrase emblématique, hein, « Copyright is for losers ». Donc le copyright, c'est pour les perdants, les lâches, hein, on pourrait dire. Et donc, il a à un moment intenté un procès à une société qui avait édité une série de biens dérivés dont elle faisait commerce à partir d'un de ses motifs très célèbres, hein, le flower thrower. C'est un manifestant qui jette un bouquet de fleurs au lieu de jeter un pavé. Bon. Et donc, il a perdu son procès en Angleterre parce que on lui a opposé justement le fait qu'il était dans l'illégalité, qui n'avait pas l'autorisation du propriétaire, qu'il était anonyme et qu'il pouvait pas faire la preuve qu'il était l'auteur du travail, que en plus c'était dans le domaine public, ultra public, parce que tout le monde pouvait voir cette œuvre, il l'avait dessinée dans la rue, et que donc en quoi est-ce qu'il avait une propriété, disaient les avocats anglo-saxons, sur un travail qui était offert à tout le monde. Donc les juges lui ont dit le copyright ne peut pas s'appliquer vu la situation. Mais en France, il aurait eu raison. Et alors il a essayé d'une autre façon et ça montre bien qu'il est exemplatif des situations de droit en tout cas, puisque il a dit oui, mais j'ai aussi protégé avec le fameux sigle TM pour trademark. Et trademark, en fait, ça encadre l'usage commercial qu'on peut faire. C'est pas les droits de propriété intellectuelle, ça il a été débouté, mais c'est sur la question de l'usage commercial. Il a dit voilà, en fait, moi je suis le seul habilité à pouvoir faire un usage commercial de mon travail puisque j'ai mis le sigle TM, trademark, dessus. Et là, on lui a rétorqué que la loi dit que si dans les 5 ans, vous n'avez pas fait usage commercial, vous perdez ce droit. Et de fait, il n'en avait jamais fait usage commercial. Donc, il a été facile de prouver qu'il était de mauvaise foi d'une certaine façon parce qu'il avait mis ce sigle un peu pour rigoler, mais en réalité, il n'avait jamais eu l'intention de commercialiser ça. Alors, il a essayé de le commercialiser dans l'urgence, mais on a prouvé que c'était après le dépôt de la plainte et que donc, il y avait là une double mauvaise foi d'une certaine façon. Donc, il a été débouté de cela. Et ça a été un cas un peu d'école qu'on retrouve, c'est comme ça que je suis au courant de tout cela, dans les livres d'histoire du street art. Voilà, c'est un exemple vraiment intéressant. Il y a plein d'histoires comme ça où la question du droit et de la propriété liée à la question de l'argent, hein, puisque derrière ça, il y a des questions d'argent et donc de marché, se posent. Par exemple, un autre street artiste très célèbre de nouveau, mais assez exemplatif des situations, c'est Invader, en France, qui est quelqu'un qui réalise des petites compositions en mosaïque, tirées d'un jeu vidéo ultra pixelisé d'envahisseurs de l'espace, d'où son pseudo, et qui va les coller comme ça dans l'espace public, et c'est maintenant mondial, planétaire, il est allé coller ça dans le monde entier, mais beaucoup à Paris, mais il y en a à Bruxelles. Et donc, à un moment, lui, il était un peu nerveux parce que il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui décollaient ces petites mosaïques. C'est pas de la peinture, donc on peut les décoller. Et il s'attendait à ce qu'il les revente en disant, bah, moi, j'ai un Invader, il a une réputation, il a une cote, on peut l'acheter parce qu'il y a des produits dérivés en galerie que lui accepte, hein, c'est lui qui a la manœuvre, on va dire. Mais c'est une forme de contrebande, hein, de braconnage, d'une certaine façon. On vole une pièce pour la revendre. Bon. Donc, il a fait un procès à ces personnes et il a été débouté parce qu'on n'a pas pu faire la preuve qu'ils avaient l'intention de revendre. Ça pouvait simplement être des collectionneurs qui se disaient, bah, c'est mis dans l'espace public, c'est à tout le monde, donc à moi aussi, je prends. Ce qui est vrai, hein, d'une certaine façon. Mais bon. Donc, Il a été débouté. Et il s'est dit, mais comment je vais faire alors pour lutter contre ça? D'autant que, comme le succès grandit, il y a des gens qui font des contrefaçons véritables, c'est-à-dire des plagiats, et qui se prennent, entre guillemets, pour Invader, et vont mettre des fausses mosaïques. D'une certaine façon, du point de vue d'Invader, elles sont fausses. Bon. Eh bien, il a été très malin. Il a inventé une application qui s'appelle Flash Invader, qui vous permet, lorsque vous la téléchargez, chaque fois que vous vous promenez dans la ville et que vous tombez sur ce que vous pensez être un Invader, vous pouvez le flasher, c'est-à-dire vous pouvez en prendre une photo et directement vous allez avoir le verdict. On va vous dire si c'est un vrai ou si c'est pas un vrai. Et si c'est un vrai, vous gagnez des points. Il y a un système de collection de points, de jeux concours, et il y a des gens qui ont un nombre incroyable de points parce qu'ils ont déjà flashé un nombre incroyable de pièces. Il y en a des milliers. Bon. Et c'est très malin de sa part, parce que d'une part, il a augmenté sa visibilité et l'attrait qu'on peut avoir pour son travail, en créant un jeu en ligne, d'une certaine façon. Et d'autre part, quand vous flashez un copiste, bah, il est marqué, bah, ça, c'est pas un invader. Et donc, tout de suite, vous faites la part des choses entre l'authentique et le reste. Et moi, j'ai fait l'expérience de cette application à Bruxelles, ça fonctionne très bien. Et j'étais parfois surpris de voir un invader qui me semblait pur jus, et en le photographiant, on me disait non, parce qu'il y a un système de géolocalisation, et c'est un artiste qui est extrêmement structuré, donc toutes les pièces qu'il a posées, il sait exactement où il les a mises, quand, où, il a pris la photo, il a tout. Et donc, c'est relié à cette archive, et l'archive vous dit « désolé, c'est pas un vrai, vous n'avez pas de points, et en plus, bah, ne vous intéressez pas à cette pièce, parce que c'est un copiste qui l'a réalisée ». C'est très ambigu parce que lui aussi, il lui est arrivé de faire des copies. Donc à un moment, il a fêté ses 4000 pièces. Il s'est dit, je vais faire un anniversaire en galerie. Je vais prendre 1% de ma production, c'est 40 pièces. Et en fait, je vais refaire des pièces qui sont disséminées dans le monde entier, une quarantaine, et je vais les présenter en galerie. Et là, elles étaient à vendre. Donc en fait, il a vendu des copies. Mais comme il est l'auteur lui-même de la copie, est-ce que c'était vraiment une copie? Donc c'était une copie authentique, on pourrait dire. C'est très étrange. Et là, vous voyez de nouveau que le street art bouscule un peu les codes habituels du droit, de la propriété et du marché. Et au dernier exemple, toujours avec Invader, il est très heureux par contre quand des gens vont restaurer des pièces abîmées. Donc il n'aime pas qu'on les enlève pour les revendre, mais ça ne le dérange pas que si une pièce est abîmée, quelqu'un ou un groupe de fans décide de la refaire, c'est assez facile à refaire, et de remplacer la pièce abîmée ou qui a été volée par une nouvelle. Et il considère que c'est authentique, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui l'a faite. Donc il y a une espèce de partage ici de la propriété intellectuelle. C'est vraiment étonnant. Voilà. Un dernier exemple avec le street artiste JR, qui est également assez réputé, qui fait un travail d'affiche sur base de photographie avec un style très particulier, qui photographie des gens, le plus souvent, des portraits. Eh bien, quand il y a une association qui défend une cause, une association qui s'engage, qui milite, qui lui semble juste, il a envie de la soutenir, alors il leur propose de s'associer à leur présence dans la rue quand ils font de l'affichage, etc. C'est-à-dire qu'il reçoit leurs clichés, il les customise à la façon de JR, donc il leur donne une couche esthétique supplémentaire et un style très reconnaissable. Et puis il leur renvoie, et eux peuvent placarder leurs images de militantisme, mais qui ont la patte de JR, qui ont une dimension artistique. On est dans ce qu'on appellerait de l'artivisme, on est à la rencontre entre l'art et l'activisme. Bon. Et il ne demande rien pour ça, c'est gratuit. Alors qu'aujourd'hui, c'est un artiste ultra réputé. Si vous lui passez une commande publique ou une commande privée, ça va vous coûter une somme d'argent considérable. Et il est représenté en galerie, dans d'excellentes galeries, à des prix assez élevés. Eh bien, dans ce cas-là, il ne demande rien. Mais, bien entendu, il faut toujours tout regarder. Il y a un intérêt pour lui. C'est de nouveau l'intérêt de la visibilité. Non seulement il apparaît comme un bienfaiteur de noble cause, donc sa réputation, on y revient, hein, la réputation de l'artiste joue sur la réputation de l'œuvre. Et en même temps, sa manière de travailler l'image, ben, elle est diffusée deux fois plus, puisqu'il y a sa production à lui, plus la production déléguée, si je puis dire, à des associations qui ont tout intérêt à se faire voir pour défendre leur cause. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Et voilà, c'est un autre aspect de l'absence, cette fois, de droit d'auteur, qui est compensé par, finalement, une visibilité accrue.
Oui, parce que une des premières questions qu'on peut se poser, évidemment, quand on aborde cette thématique, c'est de se dire, mais de quoi va vivre un street artiste s'il est anonyme?
Voilà. Alors, s'il est anonyme, on va dire pur et dur, il pourrait même considérer qu'il n'appartient pas à la sphère de l'art. Hein, il faut respecter ça aussi. Donc, lui, c'est une pratique qui vient en plus de tout le reste. Donc, il a peut-être un métier à côté. Mais le soir, il sort, il va graffer, il va taguer, il va faire une composition. Il considère que ça fait partie de sa vie, peut-être même de sa santé mentale. Chacun a ses raisons. Mais il n'a absolument pas l'intention d'être reconnu comme un créateur et de devoir entrer sur un marché de l'art. Lui, il s'en sort très bien comme ça. Voilà, ça c'est une situation. Je vais polariser les choses. Hein. Et puis à l'autre bout de la chaîne, vous avez même des street artistes opportunistes qui vont absolument aller dans l'espace urbain parce qu'ils veulent être vus et repérés et éventuellement à ce moment-là être invités à être en galerie et rentrer dans le marché. Ou être invités à être au musée et rentrer dans le monde institutionnel. Où ils se disent que dans le fond, être vu désormais dans la rue, avec une bonne photo qui va sur Instagram, ça augmente ses chances de visibilité plutôt que d'aller frapper à la porte d'une galerie ou à la porte d'un musée. Donc, entre ces deux positions extra-polarisées, il y a toutes les nuances possibles. Alors, on va aller au milieu. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Au milieu, je suis éventuellement même un étudiant en art, et puis je fais du street art. Je voudrais en faire profession. Donc, comment est-ce que je m'organise? La première chose, souvent, c'est qu'ils se regroupent en associations. Alors, ces associations ont pour un double objectif. D'une part, d'obtenir des commandes. Et à ce moment-là, on les fait en collectif et puis on se distribue les revenus. Voilà. Mais d'autre part aussi, de former des candidats, artistes qui veulent s'équiper pour travailler dans la rue, en leur transmettant un savoir-faire, en mutualisant des outils. Une manière de faire ce qu'on appelle incubation, un endroit où on va être en gestation jusqu'à pouvoir voler de ses propres ailes. Donc il y a une forme d'entraide. Ce sont des communautés qui sont assez, basées sur une qualité humaine. D'ailleurs, très longtemps, on proposait aux street artistes de faire des interventions dans des festivals de street art, etc., une autre forme de reconnaissance de cette pratique, mais c'était pas rémunéré. Par contre, on leur offrait une ambiance extraordinaire, il y avait la possibilité de se rencontrer, de faire partie de cette communauté, de bien manger, d'être logé décemment, ça suffisait en fait, parce que la qualité du rapport humain et de la rencontre, pour eux, était tout aussi importante peut-être que gagner de l'argent. Bon, ça n'a qu'un temps. Après, les histoires personnelles font que l'histoire change. Vous grandissez, vous faites former une famille, vous avez d'autres besoins et envies légitimes que quand vous aviez 20 ans. Et donc, l'histoire du street art change puisque désormais, on a des gens qui se professionnalisent et qui veulent effectivement avoir des revenus. Alors, au-delà de ces associations, vous pouvez effectivement répondre à des commandes privées, individuelles, des commandes publiques, avoir des produits dérivés, vous-même, votre propre chaîne de produits dérivés. Il y a des artistes qui ont des sites internet où vous pouvez leur acheter des choses. Et puis, vous avez les droits d'auteur dès le moment où on utilise votre talent. Et ça peut être des appels à projets publics pour les plaisirs d'hiver à Bruxelles, par exemple. Il arrive qu'on fasse appel à des street artistes pour customiser le programme, les affiches, etc. Ça peut être une ligne de vêtements. Vous allez même voir dans l'ultra luxe, dans des sacs à main parfois très chers, vous avez tout d'un coup une incursion de street art ou de graffiti. C'est un esprit qui percole absolument partout, qui est à la mode et qui est tendance. Et ça, ce sont toutes des opportunités pour avoir des droits, alors, de propriété intellectuelle sur les déclinaisons qu'on fait d'une image dont vous êtes l'auteur. En fait, la question du marché et surtout la question de comment un street artiste gagne sa vie est une question qui peut prendre une tournure politique. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, soit on se dit que l'artiste a besoin d'une certaine façon d'être assisté par la puissance publique, il a besoin de recevoir des subsides, il a besoin qu'il y ait des appels à projets, qu'il y ait des commandes publiques. Et donc, d'une certaine façon, d'une manière un peu paternaliste, on pourrait considérer que l'artiste est un assisté, qui a besoin de la charité publique, qui est finalement la charité qui provient des impôts ponctionnés et donc finalement du public. Donc d'une certaine façon, c'est pas un art gratuit, puisque d'une certaine façon, les impôts prélevés auprès du public servent à financer des œuvres d'art publiques qui vont être entre guillemets offertes aux gens. Mais c'est simplement une alchimie qui transforme l'argent que le privé a versé sous forme d'impôts en œuvre d'art qui lui revient. Moi, de mon point de vue, en tant qu'historien de l'art, je trouve que c'est une transformation intéressante, cela dit. Mais bon, tout de même, est-ce que c'est le seul modèle qu'on peut appliquer aux artistes urbains en se disant, les pauvres, ils ont choisi une voie d'expression comme les land artists et comme les performeurs qui les empêchent de vraiment gagner leur vie sur le marché par eux-mêmes, comme des grandes personnes, comme tout le monde, quoi. Et donc, il y a du bon et du mauvais dans la commande publique. La commande publique permet aux artistes de s'exprimer dans de bonnes conditions, de construire une vraie carrière et effectivement de gagner, en tout cas, une partie de revenus d'artistes. Mais d'une certaine façon, ça correspond politiquement à un modèle un peu désagréable. D'ailleurs, quand on fait des restrictions budgétaires, on s'attaque souvent à la culture et à l'art à cause de cette vision un peu tronquée du phénomène, en disant, bah oui, la culture, c'est toujours subsidié, voilà, c'est gratuit, mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est un besoin primaire? Et donc, il y a des choses plus importantes, donc on peut sucrer dans la culture. Donc, c'est un vrai débat de société, de nouveau, que le street art amène, quoi. Et donc, finalement, la solution, ce serait quoi? Ben, ce serait de vivre dans des sociétés où les gens ont finalement plus de moyens, qu'il y ait une répartition juste des richesses, et que donc chacun ait finalement aussi un budget pour acquérir de l'art. Et à ce moment-là, on peut acheter du street art, puisque je le disais à un autre moment de notre conversation, le street art est bon marché sur le marché de l'art. Donc à ce moment-là, si les gens avaient plus la possibilité de collectionner, ils le feraient certainement. Et ils considéraient que la culture a un prix, qu'elle ne doit pas forcément être subsidiée et gratuite, mais qu'elle peut correspondre à un acte volontaire de dépense de son, au sein de son budget, quoi, comme on achète par ailleurs d'autres biens, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de déplacer les choses sur le terrain, voilà, de modèle de société dans lequel on vit, quoi. Et le street art est également au cœur de cette tension-là et la met en évidence, je dirais. Voilà. Donc, soit je vis d'une certaine façon de la charité publique en répondant à des commandes ou en recevant des subsides pour mon travail, soit je vais vers le grand capital et à ce moment-là, je décline mes œuvres d'une autre façon. J'en fais des objets commercialisables et d'une certaine façon, aux yeux de certains, c'est déjà dévoyer son travail, même si je vous l'ai expliqué depuis le début, il y a des pratiques de ce genre qui se font, donc pour moi c'est pas un dévoiement, c'est une autre forme d'authenticité, mais soit. Et à ce moment-là, je propose des objets à la vente qui sortent de mon atelier, non pas pour aller sur un mur dans la rue, mais pour aller dans une galerie, une salle de vente, une foire d'art, et à ce moment-là j'ai des revenus. Et enfin, j'ai des droits d'auteur dès le moment où la propriété intellectuelle de mon travail est respectée, même, rappelez-vous, si je suis clandestin, grâce au droit français.
si on réfléchit donc en termes d'artistes de street art et de réputation, on peut reprendre l'exemple de Banksy qu'on avait cité tout à l'heure, enfin que vous citiez. À partir du moment où il fait une fresque, dans les heures qui suivent, ça a été partagé sur tous les réseaux. Et quelque part, l'œuvre est en danger d'être volée. Je suppose qu'il doit y avoir des tas de gens qui veulent avoir un Banksy chez eux.
Oui, d'ailleurs, il y a des cas qui ont défrayé la chronique, hein, où effectivement une œuvre est volée quasi instantanément après son installation, dès le moment où elle est authentifiée, par le fait qu'il va publier sur son compte Instagram, par exemple, la nouvelle pièce. Et donc ça arrive, il y a même une porte qu'il avait faite au Bataclan suite au massacre lors des attentats de Paris, qui a été volée pour être éventuellement revendue. C'est du recel, hein. Et finalement, les auteurs ont été attrapés, et la porte a été récupérée et les voleurs condamnés. Un peu comme on vole des tableaux dans les musées ou dans des collections privées, sauf que là, on les vole dans la rue. Alors, c'est amusant parce qu'on vole un bien qui est à la fois commun, hein, parce que voilà, c'est dans la rue, c'est pour tout le monde. Au niveau du droit, je ne sais pas tout à fait comment on s'en sort, mais ça me semble être un cas intéressant parce que c'est pas faire comment on appelle ça, vol avec effraction, en entrant chez un privé ou un musée public et en volant un objet qui est normalement sous clé. Là, c'est une porte qui était qui donnait sur la rue, quoi.
C'est le début de l'effraction.
Oui, la porte plutôt qu'entrer et voler quelque chose à l'intérieur. Voilà, donc ça demande une imagination juridique pour régler ces questions-là, mais c'est quand même de l'ordre du trafic d'œuvres d'art. Ça, c'est clair. Alors, vous savez qu'il y a un cas, d'ailleurs, pour vous montrer que la question juridique, à qui appartient le street art, est une vraie bonne question, hein. C'est qu'il y a un autre Banksy qui a été effectivement dérobé et puis qui est apparu en prévision d'une vente. Donc la vente était annoncée sur les réseaux sociaux. Il y a des citoyens du quartier dans lequel la pièce avait été posée et qui avait été volée, qui ont alerté les politiques au niveau communal, hein. C'était à Londres, dans un quartier du Nord, sur la situation. Et donc il y a un hashtag Save Our Banksy qui a été lancé par un mandataire public qui a récolté un très grand nombre de signatures, et ils ont réussi à empêcher la vente. Et donc là, d'une certaine façon, qui était le propriétaire? C'était le public, d'une certaine façon. Donc, il y a une question qui est posée comme ça par un des chercheurs, hein, que je lis parmi toutes mes recherches, qui dit, dans le fond, qui est propriétaire de l'œuvre, hein? On en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est le propriétaire du mur? On a dit que non, normalement, il n'a pas le droit de propriété intellectuelle, en tout cas au regard du droit français. Mais ça pourrait être un propriétaire au regard d'un autre, une autre position juridique. Est-ce que c'est l'artiste qui est le propriétaire? Et si oui, comment est-ce qu'on l'identifie, puisqu'il a travaillé soit clandestinement, on ne sait même pas qui c'est, soit sous pseudonyme, et donc anonymat? Bon, ça pose de nouveau une question intéressante. Est-ce que ce sont les destinataires? Et alors là, c'est les gens de Save Our Banksy qui disent, écoutez, c'est pour nous, c'est de l'art public, et donc nous sommes le public, donc quelque part, cet art nous appartient. Et donc, c'est même la règle du jeu. Si vous le mettez sans autorisation dans l'espace public, c'est un cadeau que vous faites aux gens. Entre parenthèses, quand le capital réussit à valoriser ça, à le remettre sur un marché, c'est un paradoxe inouï. C'est presque un oxymore. C'est-à-dire qu'un art gratuit pour tous devient finalement un objet qui a une valeur sur un marché et qui va appartenir à un, celui qui va mettre le prix pour l'acheter. C'est quand même un retournement de situation amusant. Et les deux situations coexistent désormais. Est-ce que ce sont même plus largement les admirateurs de l'artiste? On pourrait dire, dans le fond, il y a des fans, il y a des gens qui adorent cet artiste, par exemple Invader, ces gens qui jouent avec l'application Flash Invader et qui vont faire des milliers de kilomètres pour aller flasher des œuvres parce qu'on a signalé qu'il y en avait une par-ci, par-là. C'est des fans, quoi. C'est des gens qui ont le droit, d'une certaine façon, de se sentir les destinataires de l'œuvre et quelque part, leur propriétaire. C'est très intéressant. Il n'y a pas de réponse, hein. Je ne vais pas vous donner une réponse, mais nous, on pose question. Donc, le colloque est là aussi pour poser les bonnes questions et puis voir les esquisses de réponses qu'on peut leur fournir, quoi.
Oui, mais comme ici, il s'agit d'œuvres, le mais n'est peut-être pas de rigueur, mais ce sont des œuvres qui sont donc présentées dans l'espace public. Ce n'est pas pour autant qu'elles appartiennent au public. Si j'adore la sculpture qui se trouve dans le jardin public près de chez moi, je ne peux pas la prendre pour la ramener à la maison.
Oui, vous avez raison. Quand on remet ça dans la question plus générale de l'art public, normalement, l'œuvre appartient déjà à quelqu'un. Qui est derrière la présence de cette œuvre. Alors, je vous disais que je travaille dans des commissions d'experts liées à ça. Effectivement, il y a un appel. Et donc, à ce moment-là, c'est l'autorité publique qui a lancé l'appel, qui est propriétaire de l'œuvre. Ou alors, ça peut être une commande qui vient d'un privé qui met devant chez lui sur sa propriété, mais c'est visible de la rue. C'est d'une certaine façon une sculpture publique, mais qui appartient à un privé. Et il y a certainement bien d'autres déclinaisons. Vous avez raison, ça appartient à quelqu'un. Mais dans le cas du street art, à qui ça appartient? Parce que ça n'est pas une commande publique si ça apparaît illégalement et le propriétaire n'a rien demandé. Vous voyez? Donc mes deux cas de figure classiques ne valent pas à cet endroit-là. Donc la question reste vraiment intéressante. Sur qui en est le propriétaire? Vous savez, ça va plus loin. Il y a des street artistes qui disent, écoutez, moi, je suis pas, quelqu'un qui fait de la dégradation d'un bien privé, parce que j'interviens sur des façades qui donnent sur la rue. Donc en réalité, quand le propriétaire est dans sa maison, il ne voit pas mon travail. Donc mon travail ne s'adresse pas à lui, donc ça n'est pas d'une certaine façon quelqu'un que je veux embêter. Moi, je m'exprime pour les habitants du quartier, pour les gens qui vont circuler, les usagers, les habitants, etc. Donc d'une certaine façon, j'estime que la façade, ça n'est pas quelque chose qui devrait être privé, c'est un espace public. Et que ce soit une institution publique ou un propriétaire privé, c'est la même chose. Ce mur est à disposition, c'est donc un espace d'expression et j'interviens dessus. Voilà. Et ça, c'est un argument qu'on peut entendre. Donc, quand vous dites « ça m'appartient », il y a des nuances. Donc, ça m'appartient au sens que je suis propriétaire de l'objet et je le ramène chez moi, ou ça m'appartient... Ça appartient à mon regard, on pourrait dire. Ça fait partie de mon champ visuel. Donc, ça m'appartient aussi d'une certaine façon, vous voyez. Donc, je peux pas l'emporter, mais elle est à moi. Et donc, si on l'enlève, on me la vole d'une certaine façon. Et c'est pour ça que donc certaines personnes sont tristes de la disparition de certaines œuvres. Alors, bon, on peut pas être angélique non plus. Il y a des gens qui sont furieux, qui sont heureux quand on efface. Hein, donc voilà. Mais c'est toujours une vraie question. Dans les communes à Bruxelles, vous avez normalement un service de nettoyage gratuit, vous les appelez, c'est la cellule anti-tag, en tout cas à 1000 Bruxelles, c'est comme ça qu'on l'appelle, et donc ils viennent effacer votre mur si, en tant que propriétaire, votre mur extérieur a été touché par le phénomène. Mais c'est arrivé que une œuvre pour laquelle un propriétaire a demandé d'effacer, eh bien, les autorités communales suspectaient qu'elle était une œuvre d'un graffeur très célèbre, c'est notre Banksy à nous, c'est Bonhomme à Bruxelles. Et on s'est dit, vous savez, monsieur, apparemment c'est Bonhomme qui a fait ce travail, c'est son style, on reconnaît bien, c'est dommage de l'effacer, même si on met ce service public à votre disposition, on n'est pas sûr que dans ce cas-là, on va le faire. Jusqu'à ce qu'effectivement, ils disent, écoutez, non, on n'a pas le cœur de le faire, on va pas le faire. Et le propriétaire avait tout le droit de le faire lui-même, ce qu'il a fait. Donc il l'a fait lui-même, il l'a effacé. Donc c'est dommage, l'œuvre est partie. Et là, il a fait valoir son droit de propriétaire au sens propre du terme. Mais ça a privé les habitants du quartier, c'était à Saint-Gilles, de la contemplation, pour certains en tout cas, ou de la délectation même pour d'autres, de la présence de cette œuvre. Donc cette histoire de propriété, elle est vraiment intéressante parce qu'il y a plusieurs registres de propriété. Et c'est de nouveau un endroit où le street art va casser un peu les convictions sur le plan légal, sur le plan à qui appartiennent les façades qui sont présentes dans la rue et qui font partie de notre champ visuel, etc., etc.
Et vous pensez arriver à l'issue du colloque avec une réponse ?
Je pense qu'on va surtout arriver avec plus de questions qu'au départ, mais des débats et des échanges extrêmement intéressants. Alors, attention, quand je lis des articles beaucoup plus précis sur le plan du droit, il y a des réponses juridiques qui sont parfois précises. Mais, comme je le disais, ça dépend en fait des législations. Et donc là non plus, on n'aura pas une réponse qui vaut urbi et orbi, ce seront des réponses locales en fait, c'est ça. Mais moi, je pense que l'intérêt d'un colloque, c'est l'échange des idées. Hein. Si un colloque était là pour clôturer le débat, ce serait dommage. Je pense qu'un colloque, c'est là pour ouvrir le débat, ouvrir la discussion. Et alors, c'est plus le travail de la publication, je trouve, d'aller plus loin dans la recherche de réponses. Donc, notre habitude ici, c'est qu'après le colloque, on rassemble une communauté éditoriale, si je puis dire, et on repense la meilleure façon de diffuser finalement à la fois les résultats du colloque, mais au-delà de ça, les résultats des recherches des différents intervenants du colloque. Donc, c'est pas ce qu'on appelle les actes du colloque où on fait la somme des communications, à la limite, qu'on pourrait faire à la sortie si on les avait enregistrées et retranscrites avec une intelligence artificielle. C'est pas du tout notre objectif. On construit un véritable livre, une véritable publication sur le sujet, parce que grâce au colloque, on a réuni suffisamment de spécialistes pour faire une bonne équipe éditoriale. Voilà. Donc, les réponses viendront peut-être en décalage, mais je suis heureux que le colloque pose des questions parce que ce sera la matière du livre. Donc, le colloque s'appelle le street art en droit et marché, quand les graffeurs rencontrent les collectionneurs. Il s'ouvre en fait le mercredi 25 mars à 18h dans un lieu dans le haut de la ville qui s'appelle Talk CEC, qui se trouve Chaussée d'Ouavre. Vous avez tous les détails en ligne sur notre événement. C'est d'abord une rencontre débat avec trois galeristes extrêmement importants sur la scène parisienne. Vous avez Magda Daniche de la galerie Magda Daniche, Mehdi Benchek de la galerie Itinérance et Benoît Maître de la galerie Lavomatique. Et ce débat sera animé par Stéphanie Lemoine, qui est une journaliste et autrice sur les questions de street art, qui a publié énormément de livres passionnants sur le sujet. Alors, le lendemain, toute la journée du jeudi, entre 9h et 18h, nous sommes à U Square. Et à ce moment-là commence le colloque au sens propre du terme, sous la forme d'une journée d'études où nous allons recevoir des spécialistes du droit et des spécialistes du marché qui s'intéressent déjà avant cela bien sûr au street art et qui vont rendre compte de leur point de vue sur les différentes questions qui ne manquent pas de se poser quand on confronte cette pratique d'art urbain à des questions aussi sérieuses que la question du marché et du droit. Voilà, donc une journée entière de réflexion, et alors d'ici un temps long, on espère sortir un livre qui permettra d'aller plus loin encore dans la réflexion et d'apporter une somme de réponses aux questions que poseront évidemment le colloque. Et le public est attendu, bien sûr, on aura certainement des street artistes qui viendront s'intéresser à cette matière qui les concerne directement, mais aussi le public et tout chercheur lié à des questions connexes sera le bienvenu, parce que pour nous, un colloque, c'est vraiment une rencontre, une discussion. Donc, il y a des espaces de débat avec le public qui sont pour nous extrêmement importants.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout à Eric Banèche de m'avoir accordé cette interview. Je vous rappelle, donc le colloque est organisé, c'est mercredi 25 et jeudi 26 mars. Mercredi en soirée, jeudi toute la journée. Je vous renvoie à une petite recherche et à toutes les informations qui étaient données en fin d'interview. Je vous rappelle donc que le colloque ne demande pas de préinscription. Donc si vous êtes simplement curieux, eh bien n'hésitez pas, passez le nez par là-bas. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour un autre Histoire de Savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?